le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Jean-Marc Ayrault promet la transparence aux familles des victimes du crash de l'Airbus Égyptair reçu ce matin au Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères qui a également confirmé les messages automatiques envoyés par l'appareil sans confirmer la présence de fumée dans le cockpit. Le point avec Jérôme Jadot au début de ce journal. Des milliers de personnes cet après-midi partout en France mobilisées contre le géant des biotechnologies Monsanto. Le reportage dans le cortège parisien d'Éléonore Vanel est à suivre. En Autriche, le candidat écologiste Alexander Van der Bellen vient de tenir son dernier événement cet après-midi. À quelques heures de l'élection présidentielle de demain, il s'agit de mobiliser contre l'extrême droite. Enfin, à 24 heures du palmarès, nous serons en direct du Festival de Cannes avec notre envoyé spécial Antoine Guillot. Deux films en compétition aujourd'hui, Portrait de femmes malmenées. De la fumée à bord de l'Airbus A320 d'Égyptair, c'est ce qu'indiquent des messages automatiques transmis par l'Airbus A320 juste avant sa disparition jeudi matin en mer Égée. Le bureau enquête et analyse l'a confirmé ce matin, mais pour Jean-Marc Ayrault, tous les scénarios restent à l'étude sur les causes du crash qui a fait 66 victimes, dont 15 Français. Le ministre des Affaires étrangères a reçu ce matin les proches des disparus au Quai d'Orsay avec des précisions. Le reportage de Jérôme Jadot.
La transparence, c'est la promesse qui a été faite aux familles des passagers du vol MS-804, mais deux jours après le crash, c'est la prudence qui reste de mise, répète Jean-Marc Ayrault.
Toutes les hypothèses sont examinées et aucune n'est privilégiée. Des informations circulent ici ou là, parfois d'ailleurs contradictoires, et donnent lieu trop souvent à des interprétations presque définitives. Je mets en garde contre cette manière de faire. Elle met les familles dans une tension douloureuse et que je voulais exprimer devant vous.
Des familles maintenues à l'abri des micros et caméras qui ont pu poser une trentaine de questions dans un climat d'intense émotion et de grande dignité, selon les mots du ministre des Affaires étrangères. Questions notamment sur ce message automatique émis de l'avion faisant état de fumée dans le cockpit. C'est Stéphane Jiquel de l'association d'aide aux victimes FENVAC qui relate la réponse faite par le représentant du bureau d'enquête et d'analyse.
Il a confirmé sur demande d'une famille l'existence de messages ACAS évoquant de la fumée, mais il a été extrêmement prudent puisqu'il a dit que c'est pas parce qu'il y avait des messages ACAS évoquant la fumée qu'il y avait de la fumée.
Beaucoup de circonspection donc et quelques inquiétudes aussi, alors que c'est Le Caire qui conduit l'enquête de sécurité. L'ambassadeur d'Égypte a tenté de rassurer en martelant que son pays n'avait pas peur de la vérité.
Des précisions signées Jérôme Jadot. Un gendarme du GIGN tué par un homme armé ce matin à Gassin dans le Var. Le suspect, âgé de 80 ans, s'était retranché chez lui après avoir blessé par balle sa femme. Il a été transporté à l'hôpital de Nice après avoir tenté de se suicider. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fait part de son émotion et le directeur général de la gendarmerie nationale, Denis Favier, s'est rendu sur place cet après-midi. Alors que la Commission européenne vient de reporter sa décision sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate utilisé pour fabriquer le Roundup de Monsanto, une mobilisation internationale s'est tenue aujourd'hui contre le géant américain de la biotechnologie. En France, les manifestations ont été organisées par le collectif citoyen des engraineurs. Mobilisation pour faire pression pour une agriculture écologique et transparente. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont participé à ce mouvement suivi par Éléonore Vanel.
Notre santé avant leur profit. C'est un des nombreux slogans de cette marche contre Monsanto, le géant américain du pesticide. Coincée entre plusieurs pancartes peintes en rouge, Pascal, elle a fait le déplacement depuis l'Eure-et-Loir avec sa fille.
Il faut quand même savoir qu'en Eure-et-Loir, le Roundup est légion, les pesticides sont légion. C'est le bal des pulvérisateurs tous les jours. Donc on vient défendre une agriculture équitable et qui n'empoisonne pas les gens.
Un peu plus loin, Adi distribue des affiches contre Monsanto. Il est coordinateur dans la commission écologie de Nuit Debout. Selon lui, la société civile doit se mobiliser pour vaincre la firme emblématique de l'agrochimie.
C'est le peuple qui doit décider aujourd'hui de consommer autrement. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est très important, c'est notre pouvoir. Il faudrait qu'on consomme plus ces produits-là, mais c'est très difficile. Vous allez dans une boulangerie, vous achetez du pain, bah c'est du pain avec des céréales type Monsanto.
Difficile pour les consommateurs, mais aussi pour les agriculteurs de s'émanciper des pesticides. Benjamin Souris, du collectif citoyen Les Engraineurs, est un des co-organisateurs de la marche contre Monsanto.
Il y a un système qui verrouille aussi aujourd'hui l'agriculture, à travers l'endettement, à travers les banques. C'est aussi au pouvoir public de faire en sorte que cette transition vers le bio et vers des pratiques plus respectueuses soit encouragée. C'est comme vraiment l'addiction, il faut toujours monter les doses, parce qu'il y a de l'accoutumance. et ça finit par avoir une société complètement malade et des consommateurs qui s'empoisonnent dans les produits.
Les marcheurs du jour sont d'autant plus concernés que la France est le premier consommateur européen de pesticides et le troisième au niveau mondial.
Le reportage d'Éléonore Vanel. Le gouvernement fait un geste envers les routiers mobilisés contre la loi travail depuis le début de semaine. Le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis promet que leur régime dérogatoire sur les heures supplémentaires ne sera pas modifié, promesse saluée par les organisations syndicales. Dans les raffineries, en revanche, plusieurs blocages toujours en cours. C'est le cas à Donges, en Loire-Atlantique, mais aussi à Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, et au Fézin, près de Lyon. Les salariés ont entamé les procédures d'arrêt des sites. Plusieurs départements ont pris des arrêtés pour limiter la distribution de carburant afin d'éviter les pénuries. L'Union européenne a le regard tourné vers l'Autriche à quelques heures de l'élection présidentielle cruciale de demain. Norbert Hofer, le candidat d'extrême droite du parti FPÖ, arrivé en tête du premier tour, a donné son dernier meeting hier soir dans un quartier populaire de Vienne. Il est opposé à l'écologiste Alexander Van der Bellen, dont le dernier événement de campagne s'est tenu cet après-midi également à Vienne. Tout sauf un meeting, récit de notre envoyé spécial Ludovic Piétenu.
Sur cet Heldenplatz gorgé de soleil au pied du palais présidentiel, les soutiens d'Alexander Van der Bellen ont choisi la fête et la convivialité plutôt que de longs discours. À maintenant 13 heures de l'ouverture des bureaux de vote, une rêve pour un rêve. Un rêve de conquérir demain ce palais de la Hofburg à quelques mètres de là.
Pour absolument voter pour Alexander Van der Bellen.
Nina, 51 ans, danse un ballon jaune gonflé d'hélium accroché à sa ceinture. Elle ne veut surtout pas de la victoire du candidat d'extrême droite Norbert Hofer.
C'est quelqu'un qui n'a pas un vrai sens démocratique, c'est pas un Européen convaincu et ça serait catastrophique. Finalement, c'est un phénomène qu'on trouve partout en Europe, cette idée de nationalisme. On le trouve en France, en Hongrie, en Polonais, partout les gens. Ils sont frustrés, ils sont irrités parce que les problèmes dans le monde sont tellement complexes et pour cette raison, ils suivent des gens qui pressentent, qui disent qu'ils ont des solutions faciles. Mais c'est ridicule. Notre vie, notre monde, c'est complètement complexe. Déjà une fois, ils sont suivis à un Führer qui racontait des bêtises. Je comprends pas.
La foule ici est à majorité composée de jeunes qui profitent d'un événement fait pour eux jusqu'à tard ce soir, en espérant qu'ils se mobiliseront aussi demain. Une forte participation est capitale si Alexander Van der Bellen veut espérer l'emporter.
Un reportage de Ludovic Piétenu. Manuel Valls est arrivé au Proche-Orient. Le Premier ministre entame un déplacement de 3 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Il restera jusqu'à lundi midi à Tel Aviv, puis à Jérusalem, avant de se rendre à Bethléem, Jérusalem-Est et Ramallah. À Cannes, effervescence de rigueur à 24 heures du palmarès du 69e Festival de cinéma. Le dernier jour de la compétition s'est terminé en beauté avec 2 films, Le Client de l'Iranien Asghar Farhadi et surtout le long métrage Elle du Hollandais passé par Hollywood, Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Anne.
Envoyé spécial à Cannes pour France Culture, ces 2 films malmènent, si l'on peut dire, les femmes, puisque les 2 actrices principales se font agresser.
Oui, et les femmes en auront vu de toutes les couleurs cette année à Cannes. Et pour ce dernier jour de compétition, elles se font donc, vous l'avez dit, agressées par des inconnus dans des films dont l'intrigue consiste à découvrir leur identité en apparence seulement. Évidemment, chez l'Iranien Asghar Farhadi, cette agression va provoquer une crise dans un couple de jeunes comédiens de théâtre et les amener à se confronter aux questions morales de vengeance et d'honneur perdu. Le Client permet au cinéaste, à partir d'un incident, d'explorer la complexité des relations humaines dans la famille ou le couple, tout en l'inscrivant dans une ville et un pays en plein changement, comme dans À propos d'Elie et Une séparation, mais en mode mineur et pas toujours très inspiré. Beaucoup plus jubilatoire est le premier film tourné en France du Hollandais violent Paul Verhoeven, qui subvertit par le sexe, les fluides corporels et la violence le cinéma français, comme il l'avait fait des blockbusters hollywoodiens. Elle commence sans détour par un viol et raconte comment sa victime, patronne d'une société de jeux vidéo, fille d'un tueur psychopathe et d'une mère nymphomane, divorcée d'un écrivain raté, mère elle-même, va renverser tous ses rôles pour exercer un contrôle absolu sur sa vie, à moins que ce n'ait toujours été le cas, car rien n'est jamais certain dans ce film ambigu sur le désir et le pouvoir, à la fois drôle et effrayant, à la mise en scène brillante et à la direction d'acteurs époustouflante pour quelqu'un qui parle à peine français. On voit qu'elle pense, mais on ne sait jamais à quoi, dit Verhoeven d'Isabelle Huppert. Peut-être pense-t-elle tout simplement au prix de la meilleure actrice qui lui tend les bras demain soir.
Merci Antoine Guillot pour vos précisions en direct du Festival de Cannes. La météo, attention aux orages cette nuit. 29 départements du Pas-de-Calais à la Gironde placés en vigilance orange. Des risques de grêle et des rafales de plus de 80 km/h en région parisienne. Le préfet de police appelle à la prudence. Demain, le temps sera encore pluvieux et parfois orageux avec une nette baisse des températures à l'ouest. Journal préparé avec Meta Chiteya.